Malgré le soleil de ces derniers jours, ces dernières semaines, la pluie est tombée en abondance partout en France. Et c'est heureux, bien sûr, car la terre en avait besoin. L'eau, source de vie. L'eau aussi, nous le savons tous, source de dévastation, de catastrophe et de mort. L'eau, quand elle est en abondance, peut tout dévaster sur son passage. Et en la matière, proche de nous ou plus loin, c'est presque chaque année que nous sommes touchés par ce genre de catastrophe naturelle. Histoire de déluge, de tremblements de terre, de tsunamis, catastrophes en tout genre. Alors, après l'effroi et l'émotion des premiers instants, le choc du désespoir, le début d'un deuil impossible, une question revient toujours : quand et comment reprendre un semblant de vie normale ? Alors, quand on n'est pas touché directement, cela est bien entendu plus facile. On peut imaginer, ou plutôt on ne peut pas imaginer, les personnes qui sont touchées directement, comment cette question peut faire écho dans leur vie au quotidien. Alors, je parle là de catastrophes naturelles, mais il y a aussi les catastrophes humaines. Le mois dernier, nous en avons soupé plus que de raison. Et puis, il y a aussi les catastrophes personnelles, intérieures, celles qui nous touchent dans nos familles, au plus profond de nous-mêmes, et celles-ci font souvent encore bien plus de dégâts. Pour reprendre l'Ecclésiaste, il n'y a ici rien de nouveau sous le soleil. Depuis le début des temps, depuis le début de l'humanité, les catastrophes sont bien là et s'enchaînent. Sauf qu'aujourd'hui, hélicoptères et satellites ont remplacé les colombes et les corbeaux. En ce moment, nous vivons les premières semaines de printemps. Nous avons vu la nature s'éveiller, le retour des milans noirs dans le ciel bleu alpin, les bourgeons surgir, les victimes d'allergies ont déjà senti le retour des picotements dans le nez et dans les yeux. Nous avons même peut-être pris le temps d'un bain de soleil pour nous recharger en vitamine D. Paradoxalement à tout cela, cette douceur qui nous a saisis peut avoir pour certains un goût amer. Pour ceux qui peut-être vivent autour d'eux ou en eux, des déluges, des cataclysmes importants. Alors nous attendons le retour d'une hypothétique colombe nous annonçant qu'il n'y a plus de risque à sortir, nous annonçant qu'il n'y a plus de risque à vivre. Alors c'est intéressant ce matin de se replonger dans ce texte de Noé, ce texte qui est devenu même un mythe et que chacun a repris à son propre compte. Première surprise dans l'histoire de Noé, vous l'avez peut-être entendu, il n'y a pas qu'une colombe. Mais avant que Noé envoie la colombe, il y a un autre acteur qui est un corbeau. Eh bien, ce corbeau, avouons-le, c'est un peu l'oublié de l'histoire. Quel drôle d'oiseau! Oiseau de malheur depuis la nuit des temps, oiseau impur dans le monde juif, et diabolisé. On en a plusieurs exemples, les oiseaux d'Hitchcock. Pourquoi diable ce brave Noé a-t-il envoyé un corbeau en premier? Il avait sûrement une stratégie, une idée, puisqu'il devait bien entendu se débrouiller tout seul et n'attendait pas que Dieu lui envoie un mail pour lui dire quand cesserait le déluge. Noé va prendre un bon vieux truc de marin. Il lance des oiseaux de terre qui vont se diriger vers celle-ci et lui montreront la direction. Et en premier, il va envoyer le plus robuste, le plus fort, le plus débrouillard, celui qui est capable même de se nourrir dans la charogne. Vous avez remarqué que dans notre histoire, on nous dit que l'eau n'est toujours pas descendue, mais on ne nous donne pas de nouvelles du corbeau. On peut se demander, qu'est donc devenu ce corbeau ? Certains rabbins disent qu'il a été condamné à tourner toute sa vie autour de la terre sans but précis. Peut-être peut-on oser une interprétation plus positive ? Peut-être peut-on dire que même le plus vil des charognards peut avoir une utilité dans le plan de Dieu. Peut-être peut-on dire que chacun dans la création, que chacun a sa place aux côtés de Dieu. Venons-en donc à cette colombe. Voilà un symbole qui est bien, bien, bien chargé. La colombe, la blanche colombe, s'affiche partout, avec ou sans rameaux d'olivier dans le bec, de l'ONU à Picasso, de nos cartes de vœux aux conférences de la paix internationale. La blanche colombe, comme modèle utopiste et idéal de paix et de liberté, mais nous le savons, bien loin, très loin de nos réalités quotidiennes. La colombe, en hébreu, se dit Yona. Yona. Est-ce que ce mot ne vous rappelle rien ou plutôt personne ? Bien sûr, Jonas. C'est exactement le même mot en hébreu. Jonas, c'est ce prophète à qui Dieu demande de partir annoncer une mauvaise nouvelle à Ninive et qui, lui, en a vraiment, vraiment pas envie et part à l'opposé de la direction demandée par Dieu. Et il se cache dans la cale d'un bateau. Jonas, la colombe, n'est donc pas si blanc que cela. Il n'est donc pas si pur que cela. Bien loin du mythe du serviteur parfait. En plus, la colombe de Noé n'était pas blanche. Figurez-vous qu'il existe une multitude de colombes. Colombe à ailes noires, à calotte bleue, à calotte grise, à front gris, à nuque violette, etc. Je ne voudrais pas ici faire l'étalage de pseudo-connaissances ornithologiques, mais paraît-il que les colombes du Moyen-Orient tirent plutôt sur le brun mordoré que sur le blanc comme neige. Elles ressemblent en fait aux tourterelles que nous voyons traîner parmi les vulgaires pigeons de nos villes. Se pourrait-il alors que celle qui doit annoncer la délivrance soit en fait le plus commun des oiseaux et celui qui en plus partage son temps avec l'ennemi déclaré de nos villes? Se pourrait-il que celui qui vient nous délivrer partage son temps avec les rejetés, avec les plus désarmés d'entre nous? Se pourrait-il que le sauveur de l'humanité, tout de blanc vêtu, se soit transfiguré en commun des mortels? Oui. Oui, je le crois. Et dans un raccourci peut-être vertigineux et périlleux, nous pourrions considérer que Noé vit avec ses oiseaux son attente du royaume. L'attente, chacun nous la vivons ici en Église pendant le temps de l'Avent, du Carême, nous la vivons aussi au quotidien, pour tout chrétien qui prie, « Notre Père, que ton règne vienne ». Chaque chrétien attend la délivrance et s'y prépare avec les moyens du bord. La colombe annonce le royaume et s'en va. Elle quitte l'arche car ça y est, elle a délivré son message de libération et n'a plus besoin d'être présente puisque tout est accompli. Tout est accompli. Nous avons redit ensemble ces paroles le soir du Vendredi Saint. Ce sont les paroles de Jésus sur la croix, juste avant de mourir. Ce sont ces paroles dites par le futur ressuscité qui quittera la terre après avoir annoncé son message de délivrance et de libération. Alors, toujours dans un raccourci peut-être vertigineux et périlleux, nous pourrions considérer que nous vivons nous aussi dans ces temps perturbés. Que nous aussi nous attendons et nous prions, Seigneur, que ton règne vienne. Et peut-être dans ce temps-là, il nous faut lever les yeux et regarder les oiseaux. Jérémie nous dit, même la cigogne connaît le moment de sa migration. Tourterelles, hirondelles et grives savent exactement le moment où elles doivent revenir. Et nous, quand nous décidons-nous pour revenir vers notre Père? Jérémie dira aussi, revenez à lui. Détournez-vous de vos angoisses. Revenez à Dieu votre Père. Alors, que nous puissions apprendre chaque jour à venir à lui, à nous confier chaque matin à lui, à celui qui viendra nous délivrer. Alors bien entendu, par la mort et la résurrection du Christ, nous sommes déjà libérés et délivrés. Mais nous savons bien au fond de nous que ce que nous vivons chaque jour, c'est encore de l'asservissement, des angoisses, des peurs, des craintes et du doute. Et nous savons que nous attendons son retour pour que face à face, nous soyons cette fois parfaitement libérés. Seigneur, tu nous as libérés une fois pour toutes. C'est vrai. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes encore asservis. Que ton règne vienne.